Chers auditeurs, bonjour. À chaque émission, vous sentez combien un psychanalyste travaille non seulement avec son savoir, mais avec sa sensibilité. Sa sensibilité aux émotions et, pour tout dire, sa réceptivité à l'inconscient de son patient. Pour moi, être psychanalyste, c'est exercer une force, la force de sentir. Je sens les vibrations profondes de mon patient, comme je sens battre la vie en moi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la culpabilité. Oui, de la culpabilité. Et vous raconter l'histoire de Muriel, une très ancienne patiente avec laquelle j'ai beaucoup appris. Comme avec d'autres patients que je ne vois plus, j'ai demandé à Muriel de m'autoriser à reprendre son histoire en changeant son nom ainsi que tout détail qui pourrait l'identifier. L'expérience avec Muriel m'a montré deux choses. D'abord, qu'on peut se sentir coupable sans avoir commis aucune faute. Et ensuite, concernant mon travail de thérapeute, j'étais conforté dans le sentiment que je devais faire confiance à ce que je ressens quand je suis devant un patient difficile. À la suite du récit de Muriel, je répondrai comme d'habitude aux questions que vous m'avez adressées après avoir écouté les podcasts interactifs qui sont en ligne sur notre page L'Inconscient. Venons-en donc à l'histoire de cette patiente. Muriel est une jeune maman qui souffrait d'une insupportable culpabilité. Je devrais dire d'une double culpabilité. D'une culpabilité qui la torturait en permanence et d'une culpabilité déjà très ancienne enfouie dans le sous-sol de sa personnalité depuis qu'elle était toute petite. Muriel était donc victime, comme je vous dis, d'une double culpabilité. Une culpabilité actuelle, consciente, torturante, et d'une autre culpabilité ancienne, mais dont elle n'a pas conscience. Je vous reparlerai de ces deux culpabilités qui envahissent la vie de Muriel et la font souffrir, mais je voudrais vous donner tout de suite une définition simple de la culpabilité. Qu'est-ce que la culpabilité ? La culpabilité est le sentiment pénible d'avoir fait mal à celui que j'aime ou d'avoir eu envie de lui faire mal. J'aurais pu dire que la culpabilité est le reproche que je me fais à moi-même d'avoir fait mal à celui que j'aime ou d'avoir eu envie de lui faire mal. Vous voyez bien que la culpabilité est une affaire intérieure, est un tribunal intérieur de moi avec moi-même. Une partie de moi juge l'autre partie de moi qui se sent coupable. Mais venons-en maintenant à l'histoire de Muriel. Muriel est la jeune mère d'un très beau petit garçon de 2 ans qui s'appelle Gabriel. Elle vient me consulter pour une souffrance affreuse qui bouleverse sa vie depuis 1 an et l'a conduite à être hospitalisée en psychiatrie pendant plusieurs semaines. Muriel m'avoue d'emblée qu'une folie meurtrière lui monte à la tête chaque fois qu'elle se trouve seule avec son fils, Le soir, par exemple, dès qu'elle quitte son bureau pour aller chercher Gabriel à la crèche, elle redoute déjà ce moment fatidique où ils seront seuls tous les deux à la maison en attendant l'arrivée du père. Elle sait également que Gabriel va lui demander de jouer avec elle aux petites voitures et qu'ils vont se retrouver assis sur la moquette devant la baie vitrée du salon. C'est alors que tout en jouant, elle entre dans un état second, s'absente, évite de croiser le regard de son fils et s'imagine soudain se précipiter sur lui, l'empoigner, le porter violemment sur le balcon, le hisser sur la balustrade et le lâcher dans le vide. Aussitôt, tétanisée par cette idée d'un meurtre dont elle se croit capable, elle se reproche d'être un monstre. Seule l'arrivée de son mari peut l'apaiser.
L'inconscient sur France Inter avec le docteur Nasio.
En écoutant ce scénario tragique, je n'étais pas inquiet. J'ai tout de suite compris que Muriel n'était nullement dangereuse pour son enfant et qu'elle souffrait de ce que l'on appelle une phobie d'impulsion. Phobie signifie avoir peur et impulsion signifie irrésistible envie d'agir. La phobie d'impulsion est donc une peur, la peur de ne pas pouvoir s'empêcher de commettre un acte absurde, dangereux ou regrettable. Le patient a peur de céder à l'impulsion de faire mal, mais en vérité, son corps n'est entraîné par aucune impulsion. Ce n'est pas son corps qui est en jeu, c'est sa tête. C'est sa tête qui est envahie par l'idée obsédante d'être capable de tout. Le sujet n'est ni bestial ni féroce, mais il se croit bestial et féroce, et cette idée l'obsède jusqu'à l'épuisement. La difficulté avec les patients comme Muriel est l'inquiétude qu'ils provoquent en nous quand ils nous avouent leur intention criminelle. Écouter quelqu'un nous dire qu'il a peur de tuer son enfant nous fait immédiatement redouter le pire et prendre toutes les mesures pour éviter un drame. C'est ainsi que Muriel, avant de me rencontrer, fut hospitalisée et traité avec des médicaments extrêmement puissants destinés à l'empêcher d'agir. Ce traitement était prescrit par l'hôpital pour neutraliser une mère diagnostiquée psychotique et dangereuse et protéger ainsi l'enfant. Je me souviens très bien de la première séance où la patiente était surprise de m'entendre lui dire à la fin de notre entretien: « Écoutez, Muriel, vous ne ferez jamais de mal à votre enfant. Vous êtes incapable de tuer même une mouche. »« En êtes-vous sûr? Et si vous vous trompiez et je le tue ?» répliqua-t-elle angoissée. Et moi de lui répondre: « Vous vous croyez dangereuse, vous souffrez de le croire et vous voulez me convaincre que vous l'êtes ? Eh bien non. » Je vous affirme, vous ne l'êtes pas. Je vous le répète, vous n'êtes ni meurtrière, ni dangereuse. Vous n'êtes pas une personne impulsive. Vous n'êtes pas malade de vos actes. Vous êtes malade de la pensée. Et cela depuis très longtemps. Votre problème, ce sont vos pensées, votre imagination et nullement vos actes. Au cours des séances qui ont suivi, j'ai pu confirmer que sa phobie d'impulsion n'était pas la manifestation d'une maladie grave, d'une psychose, mais la manifestation d'une névrose. Dans la psychose, l'âme du patient est cassée, tandis que dans la névrose, l'âme du patient n'est pas cassée, elle est entière, mais tordue. La phobie d'impulsion de Muriel était donc la manifestation d'une névrose, et non pas d'une psychose. De quelle névrose ? D'une névrose obsessionnelle. Une névrose obsessionnelle, c'est une névrose qui se caractérise par des obsessions. C'est pour ça qu'on l'appelle névrose obsessionnelle. Eh bien, la névrose obsessionnelle de Muriel avait débuté quand elle était très jeune, à l'âge de 7 ans. À cette époque déjà, la petite Muriel était obsédée à l'idée de voir son père mourir. S'il lui arrivait, par exemple, de se cogner la main droite, il lui fallait impérativement, pour conjurer la mort de son père, se cogner aussi la main gauche. Si les deux mains avaient eu mal, alors son père était sauvé. En pensant que ma patiente souffrait d'une névrose et non d'une psychose, j'étais sûr de moi. J'avais déjà traité de nombreux patients affectés comme Muriel d'une phobie d'impulsion et pourtant, je vous avoue que malgré mon expérience et ma ferme conviction qu'il n'allait rien se passer de grave, je me demandais néanmoins si je ne faisais pas courir un risque à ma patiente et à son enfant, puisque nul n'est infaillible. Je ne puis vous raconter ici toute la richesse et la complexité du cas de Muriel, mais je voudrais vous dire comment j'ai compris l'origine de sa névrose obsessionnelle et de ses idées infanticides. L'hypothèse qui m'a guidé est justement celle de la culpabilité. Pour m'expliquer, je vous rappelle le raisonnement que j'ai suivi jusqu'ici. Rappelez-vous, d'abord, j'ai compris que Muriel souffrait d'une phobie d'impulsion. Ensuite, j'ai considéré la phobie d'impulsion comme la manifestation de sa névrose obsessionnelle. Et enfin, j'ai savé, je le sais par expérience, qu'à la base de la névrose obsessionnelle, il y a toujours la culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'à la base de la névrose obsessionnelle, il y a toujours l'agressivité. Oui, l'agressivité. Parfois, l'agressivité dont on est victime, parfois l'agressivité dont on est auteur. Et à la suite de l'agressivité, faire mal, apparaît toujours la culpabilité de avoir fait mal. Je vous rappelle, l'agressivité, c'est faire mal à celui que j'aime, apparaît toujours la culpabilité d'avoir fait mal à celui que j'aime. C'est très important. Pas seulement faire mal, c'est faire mal à celui que j'aime. Quand vous serez donc devant une personne qui souffre d'obsession, de TOC par exemple, TOC, rappelez-vous, veut dire trouble obsessionnel compulsif, TOC. Eh bien, quand vous serez donc devant une personne qui souffre des TOC, dites-vous que cette personne a vécu, étant enfant, des situations d'agressivité ou de deuil qui l'ont fait se sentir précocement coupable. Vous allez le voir, c'est exactement ce qui s'est passé avec Muriel. En effet, je reconnais chez notre patiente deux sortes de culpabilité. Une bouffée de culpabilité lorsqu'elle imagine qu'elle va tuer son fils, c'est quand elle s'est dit « je suis un monstre ». Et une autre culpabilité ancienne, larvée, non ressentie cette fois, mais toujours agissante, que je considère comme la cause de sa névrose et de ses obsessions. C'est cette vieille culpabilité qui a été la plus néfaste dans la vie de Muriel. Mais de quoi Muriel se sent-elle coupable sans le savoir? Pour vous répondre, je dois avant tout vous raconter que Muriel a subi dans son enfance un traumatisme. Un traumatisme qui est à la racine de ses obsessions infanticides d'aujourd'hui. Quel traumatisme ! Elle est venue au monde un an après la mort de son grand frère, mort-né pendant l'accouchement. Les parents, terrifiés par le décès brutal de leur fils, craignaient constamment que Muriel ne meure elle aussi. Voici donc le traumatisme qui a bouleversé Muriel à sa naissance. L'ombre de la mort du frère est tombée sur sa vie. Mais voilà que Muriel continuait à vivre. Elle serait donc coupable d'exister, alors que son frère, lui, n'a pas pu exister. Vous comprenez maintenant que Muriel n'est pas exactement coupable d'une faute qu'elle aurait commise, mais coupable de survivre à son frère et d'avoir profité de l'amour des parents. Je vous ai dit que dans la culpabilité, il y a l'agressivité. Eh bien, c'est comme si c'était une agressivité. Je survis à mon frère et je profite de l'amour de mes parents. Si je vous ai dit que Muriel aurait pu manifester sa culpabilité actuelle, consciente, en se reprochant « je suis un monstre », je vous dis maintenant qu'elle aurait pu manifester sa culpabilité inconsciente en se reprochant « j'ai volé le bonheur d'exister de mon frère ». Je répète, « j'ai volé le bonheur d'exister de mon frère ».
L'inconscient avec le docteur Nasio.
Je voudrais à présent vous rapporter l'essentiel de ce que j'ai dit à ma patiente au cours des différentes séances. Je vais vous le rapporter comme si je lui parlais à elle directement. Voici ce que je lui ai dit. Muriel, vous n'êtes pas un monstre. Même si vous vous imaginez être un monstre et que vous en souffrez, vous êtes une mère qui aime infiniment son fils. Je dirais même que Gabriel est pour vous tellement parfait qu'il excède de beaucoup tout ce que vous auriez pu rêver avoir comme enfant. J'arrête ici un instant pour vous raconter qu'elle m'avait montré la photo de Gabriel et que j'avais été très surpris de voir à quel point c'était un petit garçon ravissant. C'est cela qui est étonnant et que je voudrais partager avec vous. La faute qu'a commise Muriel est d'être trop heureuse. En général, quand nous parlons du bonheur, personne ne pense que le bonheur puisse être une faute. Mais voir cette femme avec un enfant superbe et la sentir si malheureuse, eh bien, je veux que vous sachiez que cela existe. Tant de femmes voudraient avoir des enfants. Tant de femmes sont heureuses avec leurs enfants. Et voilà une femme qui, ayant la chance d'être mère, se sent coupable de son bonheur. Il y a des culpabilités par des fautes par défaut et il y a des culpabilités pour des fautes par excès. C'est le cas de Muriel qui est trop heureuse d'un bonheur immérité. Je reprends le fil de ce que j'ai pu dire à Muriel au cours des différentes séances. Je disais donc, je suis sûr, Muriel, que lorsque vous vous êtes mariée, vous étiez tellement comblée de bonheur que déjà à cette époque, vous aviez cru que le destin s'était trompé. Qu'il était impossible d'être si heureuse avec un mari si aimant, alors que vous vous croyiez une jeune fille laide et immariable, portant le fardeau terrible d'avoir pris la place de votre frère aîné, mort à la naissance. Imaginez faire mal à Gabriel, le supprimer, c'est vouloir supprimer le trop de bonheur qui vous est insupportable. Vous refusez le bonheur parce que vous vous sentez coupable d'avoir remplacé votre frère mort. C'est ça l'agressivité. Vous vous sentez coupable d'avoir remplacé votre frère mort et d'avoir bénéficié à tort de l'amour de vos parents. Certes, les propos que vous venez d'entendre, je ne les ai pas formulés d'un coup, mais par bribes. Et aux moments opportuns, où Muriel pouvait les entendre. C'est très important. Parler aux patients, il faut savoir le moment dans lequel vous pouvez dire ce que vous avez à lui dire. C'est ce que les Grecs appelaient « kairos », ça veut dire le moment opportun. Tout en révélant à Muriel sa culpabilité profonde, inconsciente, d'avoir été l'objet d'un amour illégitime, je lui ai parlé aussi de l'autre culpabilité, la culpabilité consciente, celle de se dire, quand elle se dit « je suis un monstre », une culpabilité qui perturbe sa vie, c'est la culpabilité de vouloir tuer l'être qui lui est le plus cher. Avant de terminer notre récit, je voudrais ajouter une remarque sur l'angoisse que Muriel éprouve lorsqu'elle est harcelée par ses obsessions infanticides. Je sais d'expérience qu'une personne névrosée, écoute ça, peut avoir besoin d'être tourmentée. Oui, c'est surprenant. Il y a des personnes qui ont besoin d'être tourmentées, d'occuper leur tête avec des idées horribles. Comme si le tourment était pour elles une drogue dont elles ne peuvent se passer. C'est ainsi qu'il m'est arrivé de dire à Muriel que l'idée folle de tuer Gabriel était en vérité un moyen d'entretenir l'angoisse. Comme si elle voulait se faire peur avec un film d'horreur projeté dans sa tête. « Vous savez, lui dis-je, Gabriel est pour vous votre bijou sacré. Et chaque fois que vous êtes happé par l'idée morbide de le tuer, chaque fois que vous êtes assailli par cette idée folle, je vous imagine sur un pont. Je me souviens très bien de cette allégorie du pont qui m'est venue à l'esprit en écoutant Muriel. J'ai l'habitude de mettre en image ce que me disent mes patients. » Je lui disais donc, je vous imagine sur un pont, le bras tendu au-dessus de l'eau, tenant entre vos doigts un joyau, votre fils Gabriel. Vous êtes prête à le lâcher, mais vous êtes effrayée à l'idée de le perdre à jamais. À ces moments, vous êtes toute angoisse. Vous n'êtes qu'angoisse, comme si vous aviez besoin de vous angoisser, de sentir la peur de détruire l'être que vous aimez le plus. Oui, Muriel, vous avez besoin de vous angoisser, d'imaginer le pire, pour bien vous assurer que vous ne ferez jamais le pire. Vous imaginez tuer Gabriel pour être sûr que vous ne le tuerez pas en vrai. Mais il me faut arrêter ici l'histoire de ces cas en vous adressant une toute dernière remarque. Mes interventions auprès de la patiente n'ont jamais été de recommandations. Je n'ai jamais dit à Muriel « éloignez-vous de votre enfant » ou au contraire « aimez votre enfant ». Non, non, je ne lui ai jamais parlé ainsi. Je lui ai plutôt dit, en cherchant à affaiblir sa névrose, « Vous avez peur d'être heureuse. Vous avez peur d'être belle. Ou encore, vous avez peur d'être la maman de votre enfant, d'un bel enfant. » Voilà. Je vous raconte que la cure s'est poursuivie avec une nette atténuation des symptômes. Peu de temps après la fin de sa cure, j'ai reçu de la part de Muriel et de son mari l'annonce de la naissance de leur deuxième enfant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'étonnante culpabilité d'être heureux. Mais ne partez pas. Après la musique, je répondrai aux questions que vous m'avez adressées à la suite de l'écoute de nos podcasts. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me laisser vos questions et remarques soit sur la page de notre site L'Inconscient sur franceinter.fr ou bien sur le répondeur du 01 56 40 64 04.
A veces da salud y a veces mata. Espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un año amor y de tu seña una sonrisita y de tu fuga un ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidar. Pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnuda, te vístate quieta. A ti te buscará saeta. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría. Y a veces la salud y a veces.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Maintenant, je vais répondre aux questions que vous m'avez adressées après avoir écouté le podcast interactif qui est en ligne sur notre page L'inconscient sur franceinter.fr. Je vous écoute.
Bonjour, Sandrine. Muriel ne se sent-elle pas également coupable d'avoir un fils vivant, contrairement à sa maman qui a eu un fils mort-né ? N'y a-t-il pas une culpabilité aussi par rapport à sa maman ?
Merci Sandrine de votre question. Elle me fait penser avant tout, avant de vous répondre, que c'est passionnant ce dont nous parlons. C'est passionnant de penser aux sentiments des êtres humains. Si on pense à soi-même, on est croisé dans une journée par des centaines d'émotions, des pensées, surtout des sentiments. Et effectivement, votre question, c'est si, à part tous les sentiments que j'ai pu déceler chez Muriel, il y a aussi un autre qui s'ajouterait, qui serait la culpabilité de Muriel vis-à-vis de sa maman, qui n'a pas pu, elle, avoir un enfant, son premier enfant, et qu'il est né mort. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'elle a pensé à ça. Je ne suis pas sûr qu'elle a été traversée par ces sentiments de culpabilité. Et pourquoi ? Parce que Muriel souffrait d'une névrose obsessionnelle. Eh bien, une des particularités de la personne obsessionnelle, de la névrose obsessionnelle, c'est que la tête est occupée, trop occupée, par des pensées en général inutiles. Ce qui fait que la personne a une sorte de hypertrophie de la pensée au détriment des émotions. Ce qui fait donc que l'obsessionnel est plus un cognitif, comme nous disons habituellement, qu'un émotif. Les émotions sont coupées de la pensée. Donc, la tête de Muriel était trop occupée par ses pensées obsédantes par rapport à son fils. Donc, je dirais presque qu'il n'y avait pas de place dans sa tête pour pouvoir se préoccuper si la maman qui avait eu cet enfant mort, avait souffert ou pas. Et Muriel, c'est elle qui a souffert, curieusement, de cette mort de cet enfant, puisque la mort de ce frère aîné, mort à la naissance, l'a marqué sa vie, lui a compliqué sa vie. Donc, non, je ne pense pas que Muriel pensait à sa maman ayant perdu ce premier enfant, et donc pas de culpabilité vis-à-vis de sa maman.
Bonjour docteur. Voilà, j'ai été moi-même en souffrance dans la relation avec mon fils lors de sa naissance et j'ai été aidée dans un centre de maternologie dans lequel je suis restée 10 jours. Et je voudrais savoir si cette maman, Muriel, qui a aussi été assaillie par l'idée de tuer son fils, moi le mien faisait que pleurer, je voudrais savoir si elle a été aidée dans un centre ou si elle a réussi à s'en sortir.
Merci Suzanne de votre question. Je réponds deux choses. D'abord, non, Muriel n'a pas été dans un centre de maternologie. Elle a été dans un hôpital psychiatrique. Parce que les médecins, avant que je ne la reçoive, pensaient qu'elle risquait de faire mal à son fils et qu'il fallait l'hospitaliser et lui prescrire des médicaments, des psychotropes très puissants. Comme je vous ai dit dans le récit, je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette idée puisque je pensais que Muriel n'était pas du tout dangereuse. Dans votre cas, que vous avez vous-même été hospitalisé dans un centre de maternologie, c'est là, effectivement, parce que il y a eu un risque effectif pour votre enfant. Et cela me rappelle qu'il faut qu'on distingue trois sortes de pathologies d'une maman liée à un enfant. Nous avons le cas de, rappelez-vous, de Michiko, dont nous avons parlé dans notre épisode sur la mélancolie. Et Michiko, dans un accès de mélancolie, tue son enfant de 3 ans. C'est une psychose. Ensuite, nous avons Muriel, que je viens de vous parler aujourd'hui. Eh bien, Muriel, c'est une névrose. Il n'y a pas de cassure de la personnalité. Rappelez-vous la distinction que je vous ai proposée. Dans le cas de Michiko, il y a une cassure, il y a quelque chose qui est cassé. C'est une psychose. Et dans le cas de Muriel, il n'y a pas quelque chose de cassé. C'est une torsion. C'est une névrose. C'est particulièrement une névrose obsessionnelle. Et caractérisé par cette phobie d'impulsion dont je vous ai montré aujourd'hui les problèmes qui s'est posé vis-à-vis de son enfant. Et puis, nous avons le cas de vous, Suzanne, et qui est encore une autre situation où il y a un cas d'une maman qui accouche et immédiatement a une dépression qu'on appelle postpartum. Cette dépression postpartum, parfois c'est une dépression névrotique, c'est-à-dire elle est triste, mais son fils ne court pas de risque. Et il y a une psychose postpartum où son fils, oui, court un risque, puisqu'elle peut avoir non seulement l'idée de le tuer, mais essayer de le tuer. Ça, c'est encore une troisième pathologie. Donc nous avons la pathologie de la mélancolie, la pathologie de la névrose obsessionnelle et la pathologie de la dépression ou plutôt de la psychose postpartum dont a souffert, si je ne me trompe, Suzanne et que c'est pour cela qu'elle était dans un centre de maternologie.
Bonjour docteur Dinasio, que pensez-vous de ce dicton, sans citer la citation, qui dit qu'on ne guérit jamais de son enfance, qu'elle fût heureuse ou non ? Merci d'avance pour votre réponse.
C'est très sympathique. On ne guérit jamais de son enfance. Guérir de son enfance, ça veut dire que cette enfance a été une maladie ou a été une souffrance. Je dirais que notre enfance est une enfance, la plupart de nous, nous avons eu la chance d'avoir une enfance avec des moments difficiles, des moments heureux, des moments malheureux. Mais on ne guérit jamais de son enfance. Non, l'enfance est toujours en nous. Nous sommes toujours, nous avons toujours l'enfant en nous. C'est une merveille, c'est une chance. Il faut le protéger, cet enfant en nous. L'enfant que nous avons été. Et je dirais même, il faut aimer cet enfant que nous avons été. Donc, oui, nous ne guérissons jamais de notre enfance. Et nous cherchons à ne, je dirais, à ne pas guérir de cette enfance. Garde-la. Garde-la soigneusement.
Bonjour, docteur Nazio. Je suis docteur Cécilia Faury, pédopsychiatre. Et j'exerce en CMP au hôpital de jour pour enfants. J'aurais une question par rapport à ce que vous disiez sur vos interprétations. Vous disiez que vous le disiez par bribes et au bon moment. Donc ça, je sais que c'est une grande question en analyse et en thérapie du moment opportun pour partager une interprétation. Est-ce que vous pourriez dire comment vous savez à quel moment c'est justement le moment opportun ? Merci beaucoup et encore merci pour ce podcast très intéressant.
Merci de votre question, Cécilia, et je rends hommage à votre activité dans un CMP de hôpital de jour pour enfants. Et vous faites un travail formidable et je tiens à saluer tous les professionnels de santé mentale, qui sont dans les CMP et qui travaillent énormément et avec beaucoup de rigueur. Moi-même, je peux le faire il y a des longues années déjà, mais c'est passionnant de travailler avec les enfants, les parents et quelquefois avec les adolescents. Donc, je rends hommage avant tout à votre travail. Et puis, je réponds à votre question. Votre question, Cécile, elle est très difficile. C'est très difficile de répondre à cette question. C'est le résultat, ma perspicacité, mon intuition, mon inconscient instrumental, comme je l'appelle, s'est forgé au fil des ans et d'études. Il faut, comme je le dis toujours aux professionnels et aux jeunes professionnels, je vous l'ai dit à vous tous aussi, auditeurs et auditrices, c'est, il faut étudier, il faut lire, il faut étudier, il faut s'imprégner de l'expérience des autres. Et il faut beaucoup de pratiques, il faut beaucoup écouter. Vous imaginez, j'ai plus de 50 ans que j'écoute des gens. Donc, on finit par sentir, par savoir à quel moment l'interrompre, à quel moment parler, à quel moment dire tel mot. C'est le plus difficile. Souvent, c'est plus difficile de savoir se taire que de savoir parler. Vous savez, parfois, nous avons la vérité dans la main. En famille, supposons, avec un adolescent, un père ou une mère, ils disent « je sais que c'est ça le problème ». Et donc c'est la vérité. Eh bien, il ne faut pas la dire tout de suite. Quelquefois, il faut attendre pour la dire. Il faut attendre quoi ? Il faut attendre que les jeunes soient en mesure de la recevoir, qu'ils soient disponibles. Et ça, c'est valable pour toute notre vie et dans tous les domaines. On peut avoir la vérité, mais il faut savoir la dire au moment opportun.
France Inter, l'inconscient, avec le docteur Nazio.
Et nous poursuivons avec les questions que vous m'avez laissées.
Bonjour docteur Nazio et merci pour ce cas de Muriel si poignant. J'aimerais que vous reveniez sur la dimension agressive de la culpabilité. Pourrait-on pas dire qu'une pensée obsédante est une forme d'agressivité envers soi ? Qui nous protégerait d'une mise en acte envers l'autre. Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est bien votre question parce qu'elle me permet de rappeler aux auditeurs et aux auditrices que la névrose obsessionnelle, c'est une souffrance, en général modérée. Et le cas le plus classique, ce sont les personnes qui souffrent des TOC, troubles obsessionnel compulsif. Eh bien, les névroses obsessionnelles se caractérisent par trois choses. Premièrement, une hyperactivité de la pensée. Deuxièmement, par une forte agressivité refoulée, c'est-à-dire elle n'est pas toujours manifeste. C'est une agressivité qui se manifeste de manière indirecte. Par exemple, l'obsessionnel est quelqu'un qui est très méticuleux, très maniaque. Il arrange tout. Et il faut que tout soit bien ordonné. C'est curieux parce qu'il cherche à tout bien ordonner et quand vous entrez dans une chambre d'un obsessionnel, il est tout désordonné. Mais c'est comme ça. Mais en tout cas, dans sa tête, il est maniaque. Eh bien, il faut savoir que cette manie, cette méticulosité, cette nécessité de tout organiser, de tout contrôler, c'est une manifestation indirecte de l'agressivité qui est en lui. Donc, première caractéristique de l'obsessionnel, une hypertrophie de la pensée, il pense tout le temps. La tête est tout le temps occupée par des pensées en général inutiles. Deuxièmement, il a une forte teneur d'agressivité et cette agressivité s'exprime pas nécessairement par la colère, bien qu'il peut avoir des accès de colère, elle s'exprime indirectement par le besoin de contrôler. Le contrôle chez l'obsessionnel est une expression de son agressivité. Et la troisième caractéristique, c'est la culpabilité. Il est habité par un fort sentiment de culpabilité. Voilà les trois caractéristiques. Donc effectivement, comme vous le dites Valérie, la nécessité de ordonner les pensées obsédantes sont une expression indirecte de l'agressivité.
Bonjour, je m'appelle Monique. J'ai perdu mon mari il y a 2 ans d'un cancer fulgurant. Il est mort à la maison. Depuis, mon moral ne cesse de faire des hauts et des bas. Je n'ai plus vraiment trouvé de sens à ma vie. Je vis à travers lui sans arrêt et c'est très compliqué. Voilà. Comment faire son deuil dans ces cas-là? Comment continuer à avancer? Merci.
Le deuil nécessite du temps. Le deuil, c'est ainsi. Le temps fait son œuvre. C'est extraordinaire le temps. Le temps, c'est ça qui fait qu'une blessure cicatrise. La guérison d'une blessure, à part le médecin, le médicament et tout le reste, nécessite du temps. Et parfois, nous sommes impatients. Et vous, madame, vous êtes en train de traverser le temps. Et il va falloir du temps. Et dans ce temps, il y aura des petites étoiles, des petites lumières qui apparaîtront, des petites joies qui vont petit à petit vous faire accepter d'habiter, de vivre avec l'absence de cet homme qui était votre vie avant, qui était votre projet, qui était votre être, qui était vous, parce que c'est ça le problème. Lorsque nous perdons un être cher, nous nous perdons nous-mêmes. C'est pas que je perds un être cher. Je me perds moins de ce que j'étais avec lui. Nous avions des projets ensemble. J'avais une image de lui et je sentais que lui avait une image de moi. Il s'en va et tout part avec lui. Et je suis un autre. Et je dois apprendre à être un autre. Et c'est ça pourquoi vous me posez la question. Quoi faire? Docteur Nazio, quoi faire? Qu'est-ce que je peux faire pour apprendre à être une autre? Et tout en l'aimant, parce que c'est ça la question importante, je veux apprendre à être une autre, je veux apprendre à vivre avec son absence, mais en même temps, je l'aime et je vais continuer à l'aimer. Je veux l'aimer. Donc, oui, votre deuil, vous le faites. Et grâce à vous, les auditeurs qui nous écoutent peuvent comprendre qu'est-ce que c'est que faire un deuil.
Bonjour docteur, voilà, après avoir écouté le cas de Muriel, j'aimerais savoir quelles sont les répercussions de ce mécanisme sur l'enfant, sur son comportement, sur son psychisme, et si le fait que cette maman arrive à traiter ou en tout cas à diminuer sa névrose a suffi à soulager le poids qu'a dû porter cet enfant. Merci.
Cet enfant, d'après l'histoire de Muriel, et je l'ai suivi de très près, donc j'étais en permanence informé de comment réagissait Gabriel. Et il faut se dire une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a le papa. Donc le père jouait un rôle très important d'équilibrage de la situation. Muriel était mal, mais le père pouvait compenser cette difficulté de son épouse. Et deuxièmement, je n'ai rien vu chez l'enfant de problème, de répercussion en lui, de la souffrance de sa maman. Vous pouvez me dire, oui docteur Nasio, et pour le futur, est-ce que Gabriel va grandir et va devenir un adulte normal ou il aura des problèmes? Je pense que non. Je pense que Gabriel a très bien réagi. Et parfois, c'est intéressant que beaucoup de papas et de mamans peuvent souffrir, être malades, et l'enfant est merveilleux parce que, comme c'était dans le cas de Clara, je crois que c'est le deuxième ou le troisième épisode de Clara, eh bien, c'est le cas d'un bébé qui, effectivement, s'est préoccupé pour sa maman. Eh bien, nos enfants, souvent, sont là pour nous soutenir. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, attention. Mais dans le cas où ça arrive que le père ou la mère sont mal, l'enfant sait aussi assumer son rôle de compenser et de nous aider et de nous servir d'appui. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Merci à tous pour votre intérêt et vos questions qui nous ont permis d'approfondir un thème aussi poignant que celui de la culpabilité. Il est l'heure de nous quitter. Je voudrais remercier Audrey Ripouille pour la réalisation de notre émission et des podcasts, ainsi que Sybille Clamence à la technique. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h. D'ici là, je vous invite à aller sur la page L'inconscient sur franceinter.fr où vous pourrez découvrir notre prochain épisode en podcast. Merci d'écouter ce podcast et s'il vous inspire, n'hésitez pas à m'adresser vos remarques et vos questions. J'y répondrai avec plaisir dimanche prochain. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.